Écoutez voir. L'art médiéval. Écoutez voir l'art médiéval.
Rainer Maria Rilke écrit en 1929 « Il y a là des tapisseries, viens, passons lentement devant elles. Comme elles sont tranquilles, n'est-ce pas ?» Bonjour chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue dans l'émission « Écoutez voir l'art médiéval ». Aujourd'hui, notre première invitée est Marie Royot. Bonjour Marie.
Bonjour à tous, merci pour l'invitation, je suis ravie d'être ici.
Nous accueillons aussi Henri Lafaille. Bonjour Henri.
Bonjour tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver.
Et enfin, pour finir, Nina Malka.
Bonjour à tous.
Aujourd'hui, nous sommes tous réunis pour parler de l'ensemble des 6 tapisseries de la Dame à la Licorne, une tenture acquise en 1882 par le musée de Cluny à Paris. Elle a été réalisée vers 1500 dans un atelier parisien et tissée dans les Flandres. Ce chef-d'œuvre vient d'être restauré. Avec Henri, nous vous en parlerons un peu plus en détail par la suite. Vous pouvez admirer depuis 2013 cette tenture dans une nouvelle muséographie au musée de Cluny à Paris. Mais avant de parler de la restauration, Marie vous parlera de manière générale de la Dame à la Licorne, puis avec Henri, ils analyseront plus en détail l'œuvre. Par la suite, Nina fera le lien avec l'exposition Heavenly Bodies qui s'est tenue au Met de New York du 10 mai au 8 octobre 2018.
J'aime les licornes, beaucoup, 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 les licornes.
Donc Marie, d'où vient la tapisserie ?
La technique de la tapisserie naît en Europe occidentale au milieu du XIVe siècle. Rapidement, elle devient un des domaines les plus prisés des commandes artistiques de la fin du Moyen-Âge. Cet art progresse principalement dans le nord de la France et en Flandre, près des pôles de commercialisation de la laine. Il atteint son apogée au XVIe siècle où d'importants centres de production se développent, comme à Paris ou à Arras.
Et au Moyen-Âge, qui possédait ces tapisseries ?
Alors au Moyen-Âge, les tapisseries sont un moyen pour le clergé et la noblesse d'afficher leur prospérité en les mettant en scène dans deux types de lieux. Les résidences civiles, c'est-à-dire les riches propriétés rurales ou urbaines, à travers des sujets profanes installés dans diverses pièces communes.
Fixées de manière flottante à une trentaine de centimètres des murs à l'aide de crochets, les tapisseries constituent des ensembles assortis et unifient le décor d'une salle. La tapisserie se décline aussi bien en tenture murale qu'en garniture pour lit ou siège.
Il y a aussi les édifices religieux tels que les cathédrales et les églises où elles servaient de support à la dévotion grâce à des scènes bibliques ou hagiographiques. Aux côtés de ce clergé et de cette noblesse, les grandes familles bourgeoises commencent à s'y intéresser, à l'instar de la famille Leviste, une riche famille lyonnaise. La plupart des chercheurs s'accordent à dire que c'est Jean IV Leviste qui commande vers 1500 la Dame à la Licorne car il est à ce moment-là connu comme mécène. Suite à sa demande, c'est à Paris qu'un peintre a réalisé un petit dessin selon le motif souhaité par Jean IV Leviste. Ce premier dessin a ensuite été agrandi aux dimensions exactes de la pièce à tisser afin de donner ce qu'on appelle le carton. Le tissage s'est effectué en Flandre médiévale avec de la laine et de la soie.
Pouvez-vous nous dire quelques mots sur la technique ?
Bien sûr, concernant la technique, le tisserand a utilisé un métier vertical. Le métier étant la machine qui sert au tisserand pour fabriquer du tissu. L'usage de ce métier vertical classe la Dame à la Licorne parmi les tapisseries issues de la technique de la haute lisse.
Le style de la tapisserie est caractéristique d'un peintre connu sous le nom de Maître des Petites Sœurs d'Agne de Bretagne, que l'on peut identifier à Jean d'Ypres, un peintre et enlumineur actif au tournant du XVe siècle. Maintenant, Henri, pouvez-vous nous parler des caractéristiques de la tenture La Dame à la Licorne ?
Bien sûr, La Dame à la Licorne se caractérise par son fond rouge, couvert d'abord d'un portrait d'une même jeune femme présente sur chacune des tapisseries et la présence parfois de sa suivante. Ensuite, de la représentation des armoiries de la famille Leviste, qui se représente par une bande d'azur chargée de 3 croissants d'argent, puis de petits végétaux. Donc sont recensées 84 espèces végétales. On retrouve des fleurs, des pins, des houx, très précises dans leur représentation. C'est donc une tapisserie dite à mille fleurs, un genre de tapisserie qui se développe entre 1480 et 1520. Et ensuite, d'animaux, donc sont recensées 21 espèces animales. On observe des singes, par exemple, ou encore des chiens et des lions. Le lion, dans ce contexte, représente la fidélité dans l'amour conjugal. Le lapin, lui, à l'époque médiévale, est le symbole de la fertilité. Et la procréation est très importante dans la société médiévale, notamment chez les nobles désireux de transmettre les titres et les biens.
La présence de ces petits végétaux et de ces animaux permet aussi de confirmer que cette tapisserie est réalisée dans un atelier parisien spécialisé dans ce type de commande.
Parmi ces animaux, la licorne, qui est présente sur chacune des six tapisseries, possède une fonction plurielle dans la mesure où elle est parfois un animal héraldique, car la licorne porte dans plusieurs scènes le blason de la famille Levist, mais aussi un emblème de pureté et un emblème christique. De pureté, puisque tout d'abord dans les textes antiques, la licorne elle est mentionnée telle un animal farouche que seule une jeune vierge peut attirer. Autrement dit, elle est une allégorie de l'être aimé grâce à sa corne phallique rappelant l'attribut masculin. Ces textes antiques sont ensuite christianisés au Moyen-Âge. La licorne y devient une sorte d'emblème des souffrances vécues par le Christ au moment de la Passion. Donc pour résumer, par sa sobriété, sa cohérence, la Dame à la licorne est une évocation de l'amour courtois. L'amour courtois est une conception qui, au Moyen-Âge, repose sur la notion de courtoisie, de politesse, d'élégance. C'est une conception qui renvoie un ensemble de valeurs et de savoir-vivre devant être appliquée envers sa ou son partenaire. Elle se retrouve particulièrement dans le milieu de la noblesse. La plus courante des interprétations de ce cycle est le fruit d'une récente relecture du début du XXe siècle par l'historien de l'art anglais Kendrick. Celui-ci assimile les cinq premières tapisseries aux cinq sens. Dans les textes médiévaux, ces cinq sens sont hiérarchisés du plus matériel au plus spirituel.
Donc, en bas de cette hiérarchie, on retrouve d'abord le toucher, représenté dans la première tapisserie qui comporte de multiples connotations érotiques. La dame touche la corne de la licorne. Ensuite, on retrouve le goût, représenté par la dame prenant de la nourriture dans un bol, en compagnie d'un singe et d'un perroquet qui mange dans sa main. Puis l'odorat, où la dame tresse une guirlande de fleurs. Ensuite, l'ouïe, représenté par la dame jouant de l'orgue entourée du lion et de la licorne. Donc les deux têtes brandissent des bannières et elles servent aussi à fermer la composition. Et pour finir, la vue, matérialisée par la licorne, qui se regarde dans un miroir. La contemplation permet de s'élever vers un autre monde.
Georges Sand parlait de curieuses tapisseries énigmatiques. Et donc cette fameuse sixième tapisserie, que représente-t-elle ?
L'historien Jean-Patrice Boudet voit en cette sixième tapisserie le sommet de la progression dont vient de parler Henri. Le titre de cette sixième tapisserie, « Mon seul désir », provient de l'inscription figurant au sommet d'une tente. Cette tente est ouverte par un lion et une licorne qui laissent voir au milieu une femme déposant ou retirant un bijou dans un écrin présenté par sa suivante. Parce que cette sixième tapisserie met en exergue, la question du désir à travers son titre et ce qu'elle représente, donc c'est-à-dire le bijou déposé ou retiré dans l'écrin par la femme, elle est en fait une apologie du libre arbitre, de la maîtrise de soi et donc d'un sixième sens, celui du cœur. Celui-ci domine et mène les autres dans un sens positif. Bien que cette analyse soit la plus commune, pour beaucoup de spécialistes, le mystère de cet ensemble ne peut totalement être percé.
J'aime les licornes, beaucoup, 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 les licornes.
Vous venez d'entendre un morceau de Richard Strauss. L'Hortus Conclusus provient du Cantique des Cantiques. Tu es un jardin clos, ma sœur, mon épouse, un jardin clos, une source scellée. C'est une association à la Vierge Marie et à sa pureté virginale. Dans la tenture, on retrouve la représentation d'un jardin clos avec les fleurs et les arbres du paradis. Les arbres sont la manifestation de la présence divine. C'est une communication entre le ciel, la terre et l'enfer. À ce propos, nous allons à présent écouter Nina Malka qui va nous parler de la place du textile dans la religion catholique.
Cette émission à propos de la tenture de la Dame à la Licorne nous permet de faire un lien avec l'actualité de cette année. Le rapport entre religion catholique et textile, mis en scène et étudié dans l'exposition Heavenly Bodies au Met. En effet, le textile, et plus particulièrement les costumes, sont des marqueurs identitaires au sein même de l'institution religieuse. Le textile est donc un médium, au même titre que la peinture ou la sculpture, qui est très utilisé pour concrétiser la présence divine sur terre parmi les fidèles. Les vêtements liturgiques, tout comme les autres objets utilisés pour la dévotion, sont un véritable miroir des phases historiques de l'Église catholique. Comme Andrew Bolton le précise dans son introduction, porter des chaussures rouges pour le pape est une tradition qui remonte à Jean 23 et qui signifie la présence du sang du Christ durant la Passion et celui des martyrs catholiques.
Donc, comment la religion se structure-t-elle à travers le textile ?
Le textile donne une expression concrète du divin par les vêtements et les rituels au Moyen-Âge. La beauté, aussi, est un point central entre art et religion. Elle permet de donner et de conceptualiser le divin, de créer matériellement une frontière entre terrestre et céleste. C'est la stimulation de l'esprit pour arriver à la contemplation de choses plus hautes. L'art incarne la présence de Dieu sur terre, mais l'art est aussi ici pour servir les humains. Il construit et manifeste la hiérarchie dans la constitution de la religion catholique. L'association de l'architecture et du vêtement, du textile, permet d'organiser les cérémonies. À chaque partie de l'église, selon son importance, on trouve un costume toujours plus luxueux et ostentatoire pour célébrer les cérémonies. Le rôle des arts dans différents matériaux, et de montrer l'évolution dans le lieu sacré, du monde terrestre vers le paradis. L'art définit une hiérarchie spatiale et symbolique d'une enceinte terrestre à celle du dit paradis. On utilise des matériaux donc coûteux et de la main-d'œuvre spécialisée pour montrer la solennité du lieu et son caractère glorieux. Face à une œuvre évolutive comme l'est la tenture de la Dame à la Licorne, je voudrais faire un rapport avec une autre œuvre qui pratique la même chose. C'est une œuvre peinte sur bois réalisée par le maître de Saint-Augustin qui se nomme Scène de la vie de Saint-Augustin d'Hippone, réalisée vers 1490 et conservée au Met dans les Cloister Collection depuis 1961. Car si le rôle des costumes dans les distinctions hiérarchiques au sein de l'Église, si l'habit ne fait pas le moine, il fait l'officiant et l'inscrit dans la hiérarchie de l'institution. On voit ici l'évolution de Saint-Augustin d'Hippone dans le tableau avec quatre étapes. Tout d'abord en prêtre, puis en train de faire la prédication, pour enfin arriver à son ordonnance en tant qu'évêque et son travail en tant qu'intellectuel. Son évolution de rang se manifeste à travers ses costumes et l'habillement est aussi significatif et utile dans la composition avec les personnages secondaires qui sont, selon le moment, plus ou moins gradés que lui. Le rôle de chacun dans la liturgie et dans l'institution est donc clarifié par le vêtement. Les costumes sont un signe matériel de dévotion.
Et donc, comment les éléments textiles s'intègrent-ils aux autres médiums dans la liturgie ?
Pour structurer le lien entre Dieu et les hommes, ce sont les œuvres peintes et sculptées, souvent, qui mettent en présence les personnages représentés. On les intègre aussi dans les rituels et les cérémonies. L'Église, comme espace physique de la religion, offre des ornements et des œuvres d'art qui sont là pour déployer le sens des fidèles et les officiants qui occupent une place extraordinaire à la frontière fine, une zone liminale entre le terrestre et les royaumes célestes. Les matériaux coûteux et précieux, parmi lesquels des tissus de grande qualité et très voyants, sont souvent ornés de fils d'or ou de pierreries, sont aussi là non seulement pour nourrir le drame de la cérémonie, mais aussi pour nourrir les représentations figées qui se trouvent sur les tableaux ou les sculptures de scènes religieuses qui sont alors célébrées au sein de l'Église. De plus, les costumes n'étaient pas portés par des personnes statiques. Les cérémonies ou autres processions étaient précisément mises en scène pour un rendu toujours plus ostentatoire et impressionnant qui parlait mieux aux fidèles. L'expression de la foi, qui est physiquement l'édifice de l'Église, se traduit et s'incarne alors dans les arts et la beauté.
J'aime les licornes. licorne, beaucoup, 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 les licornes.
Comme nous l'avons dit en début d'émission, la tapisserie ainsi que la salle d'exposition de celle-ci ont été restaurées. Henri, avez-vous des choses à nous dire à propos de cela ?
Bien sûr, donc la teinture ayant subi le passage du temps a été acquise par Edmond du Sommerard en 1882 pour 25 000 francs or. À la toute fin du 19e siècle, les parties basses de la teinture ont été retissées au gobelin. Cela se voit bien car les couleurs du 19e se sont rapidement affadies par rapport aux couleurs originelles. À la fin des années 70, on pose une doublure sur la teinture qui protège et soulage la tapisserie. Et en 1992, on ajoute un nouveau système pour l'accrochage par l'ajout de bandes velcro. Au moment de son examen en 2012, la teinture a un état général plutôt satisfaisant, malgré un pâlissement des couleurs lié à l'exposition à la lumière, malheureusement irréversible. En revanche, l'empoussièrement et l'encrassage s'avèrent très importants et des tensions et des déformations sont remarquées dues au principe de présentation de la teinture et une doublure inadéquate.
Et avant son expédition au Japon en 2013, la tapisserie était-elle déjà restaurée ?
C'est donc en 2013, avant l'expédition de la tapisserie au Japon, que l'expert Raphaël Desjean, la responsable du groupe de la restauration, a posé son diagnostic. Celui-ci révèle que la teinture n'est pas dans un bon état. Elle possède en effet des plis, elle est très poussiéreuse et déformée à certains endroits. À son retour du Japon, la restauration est donc entreprise par un travail minutieux, s'étalant sur 10 mois. L'œuvre reprend sa place après la restauration dans une toute nouvelle salle. La restauration de la tapisserie a permis de constater certaines dégradations en lien direct avec la précédente installation. En effet, la disposition des œuvres dans une salle ovale favorise la circulation de l'air et le dépôt de la poussière. Aujourd'hui, les 6 tapisseries prennent place dans une salle rectangulaire spécialement conçue pour elles. La rosace au sol permet de comprendre les tapisseries en indiquant le sens de lecture. Cette nouvelle salle d'exposition est conçue par Paul Barnoux, architecte en chef des monuments historiques, en charge des bâtiments du musée. Ce lieu est donc son nouvel accrochage se rapproche du type d'espace où l'on plaçait les tapisseries au Moyen-Âge. Un éclairage en LED est discrètement inséré dans le plafond afin d'intimiser l'espace et de mettre en valeur les teintes révélées grâce à la restauration. L'accès à la salle se fait maintenant par une rampe permettant l'accès aux personnes à mobilité réduite que l'on oublie beaucoup trop souvent.
J'aime les licornes, beaucoup, 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 les licornes.
Aujourd'hui, les tapisseries ont quitté les espaces privés et perdu leur fonction pratique. Elles n'ont cependant pas perdu leur rôle symbolique. La licorne, quant à elle, a suscité bien des fantasmes dans l'histoire. Le musée Cluny propose depuis le 14 juillet jusqu'au 25 février 2019 une exposition qui nous montre comment les artistes du Moyen-Âge se sont emparés de ce sujet. Une exposition sous le commissariat de Béatrice de Chancel Bardelot qui s'intitule « Magique licorne ». L'exposition propose des activités comme des visites en famille, mais aussi des visites comptées et des ateliers. Elle est aussi accessible aux plus jeunes avec des jeux qui leur sont proposés. Merci de nous avoir écoutés et merci aux intervenants. Et maintenant, n'hésitez pas à aller voir.